Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Claude Niort. Il n'y a d'intéressant à connaître que les saints, les scélérats et les fous, ce sont les seuls dont la conversation puisse valoir. Les personnes de bon sens sont forcément nulles puisqu'elles rabâchent l'éternel antienne de l'ennuyeuse vie. Elles sont la foule, plus ou moins intelligente, mais la foule et elles m'embêtent. Gourmandise extraite du vénéneux roman Là-bas de Huysmans, un habitué de cette émission. Écrivain, journaliste, esthète, critique littéraire, dandy et chroniqueuse, notre apothicaire de l'âme sait qu'elle se consacrera aux mots dès l'adolescence. Internat religieux, cagne, maîtrise de philo et Sciences Po précèdent un bref encanaillement dans des cabinets ministériels. Elle écrit déjà, influencée par ses lectures de Pascal ou de Baudelaire. La curieuse dévore et engendre des textes sous toutes les formes. Elle écrit sur Debord, Warhol, Saint-Simon ou Laurence Sterne, préface Bret Easton Ellis, Nabokov, Sade ou Sacher Masoch et façonne des romans à résonance esthétique, métaphysique et politique. Dans ses écrits, elle fustige la servitude volontaire, l'absence d'esprit critique, le fascisme du consensus, la trop forte rumeur des assertions moutonnières et le déni absolu de toute négativité. Plaçant la liberté au-dessus de tout, elle défend la nuance et la complexité. Je la cite, l'exception contre la règle et la pensée contre la doxa. Idée parfaitement illustrée, entre autres, dans le brillant recueil de chroniques qu'elle vient de publier chez Flammarion, sous le titre « Roue libre ». Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour Eva Bester.
Cécile Guilbert, première question inévitable, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Alors je ne dirais pas que je suis mélancolique, mais je connais la mélancolie notamment par le biais de l'étude, en fait, cette forme de mélancolie classique, là, quand on étudie trop, quand on lit trop de livres, quand on est trop tout seul à
broyer. Saint Jérôme dans sa cellule.
Voilà, ça c'est une forme de mélancolie, mais j'ai pas du tout un tempérament mélancolique et je crois que je suis plutôt angoissée. C'est l'angoisse mon problème, c'est pas la mélancolie ni la tristesse.
Mais vous avez réussi quand même à mettre la beauté, la quête de la beauté, contre l'angoisse et la mélancolie et la mort. C'est ce que vous dites dans des interviews, Cécile Guilbert.
Oui, mais en fait, la mélancolie, j'ai l'impression qu'elle me rattrape un petit peu en vieillissant, parce que elle est liée, si vous voulez, au temps qui passe et aux êtres disparus. Mais c'est fugace, disons. C'est fugace. C'est pas des états dans lesquels je m'enfonce. Mais c'est vrai que, bon, la beauté, ça fait partie de tout ce qu'on cherche au présent pour s'aider à vivre.
Mais c'est vrai qu'il les accepte tristesse provoquée par des choses concrètes comme les deuils ou la maladie que vous racontez d'un être cher dans Réanimation. Ça, ce sont des causes concrètes. La mélancolie, on dit que c'est un deuil sans objet. Ça n'a pas l'air d'être votre cas.
Non, pas du tout.
Guilbert. Vous dites dans une interview, toute épreuve que nous vivons a une face de Janus, une face initiatique.
Oui. Oui, je tiens beaucoup à ça et je l'ai beaucoup expérimenté, donc c'est pas une idée abstraite, c'est une idée qui s'est incarnée dans mon existence, à savoir que toute épreuve, le deuil, la maladie d'un être cher, peut être l'occasion, si vous voulez, d'une volte, d'un pas de côté, d'un nouveau chemin, d'une renaissance. On meurt à quelque chose, on renaît à une autre. On meurt à la maladie, on renaît à la santé, comme chaque matin, on meurt à la nuit et on est à la journée, quoi, à l'éveil. Donc je pense qu'il faut absolument s'interroger là-dessus, parce que c'est ce qui permet de transcender et de faire que même les épreuves qui ont l'air difficiles sont des opportunités de nouvelle vie.
Toujours.
Toujours.
Cécile Guilbert, vous êtes aussi l'auteur d'une anthologie magistrale sous le titre « Écrit stupéfiant ». Et dedans, on parle de paradis artificiel dans la littérature. Au début, il y a une introduction assez autobiographique et vous racontez votre carrière dans les paradis artificiels qui est terminée maintenant.
Oui.
Car maintenant, on augmente les forces au lieu de les déliter. Quand on a connu les paradis artificiels qui créent cette euphorie parfois si extraordinaire, est-ce que c'est pas difficile de trouver la même euphorie sobre ?
Je trouve que ce qui est passionnant dans la vie, c'est de trouver une forme de jouissance dans l'ascèse. Et en fait, bon, par exemple, les anorexiques le savent. Hein. Bon, moi, j'ai jamais été anorexique, mais par exemple, dans la privation de nourriture, évidemment, les anorexiques trouvent une jouissance. Mais je trouve que dans le, sans rentrer dans l'idéal ascétique complet, je pense qu'en se restreignant, par exemple, dans ses appétits d'alimentation, ou on peut faire ce pas de côté encore une fois et trouver une jouissance dans la cèse. Bon, les paradis artificiels, c'est pas forcément euphorisant, ça dépend aussi des substances qu'on prend. Mais on peut dire qu'on en prend parce qu'on est des esprits libres, et puis on veut peut-être aussi se cacher qu'il y a une part justement de malheur qui fait qu'on prend aussi des paradis artificiels. Mais c'est pas, voilà, c'est une question complexe aussi. Et on peut trouver finalement la joie absolument dans le fait d'être à jeun complètement. Moi, il n'y a rien qui m'amuse plus maintenant que d'aller dans des fêtes où je bois pas, où je fume plus de joie, où je prends plus rien et je m'amuse très bien. Donc, c'est une victoire.
Oui, c'est vrai. Je confirme, je fais la même chose. Bon, j'annonce le sommaire des réjouissances. Cécile Gilbert, dans quelques instants, vous allez convoquer les Lumières, Casanova, l'Italie, Nietzsche, la pensée taoïste, Sade, Watteau, Ingrid Cavan, Jacques-Henri Lartigue et du tennis, juste après un titre de la programmation France Inter, Jusqu'au bout des cils de Camélia Jordana.
Au salut de la nuit, l'enfer droit comme un lit. Tous les jours tu ris des danses langoureuses, parce qu'elles t'amusent comme des filles amoureuses. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils, la saison défile, les racines en vue. Ce temps-là me plaît, ici l'hiver n'est plus. Ici l'hiver, sais-tu? Nonchalamment, tu files des caresses aux rancunes. Tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors
à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Cécile Gilbert.
Thank you.
musique composée par Nino Rota pour le Casanova de Fellini. Cécile Gilbert, comme sérum littéraire, vous avez choisi Histoire de ma vie, rédigée par Casanova pendant sa retraite en Bohème sur les conseils de son médecin. Entre 1789 et 98, il en débute la rédaction à 64 ans. Et ce qu'on découvre en le lisant, c'est que ce n'est pas un Don Juan, c'est aussi un voyageur, un amateur d'art et de science, et un libertin dans le sens d'indépendant et d'affranchi.
Oui, et puis c'est un corps en mouvement, c'est un philosophe, c'est un joueur, c'est un jouisseur, c'est un féministe.
Ah oui ?
Oui, justement, il ne faut pas le comparer trop à, en fait, à Don Juan, parce que Casanova est un ami des femmes.
Bon, oui, il est jamais... un amoureux, il est un vrai amoureux.
Oui, il est un amoureux, et puis toutes les femmes qui met dans l'embarras, que ce soit par rapport à leur mari, leur confesseur, à qui il fait des enfants, il les aide, il les abrite, il les protège, enfin, il prend ses responsabilités, ce n'est pas du tout un séducteur qui les séduit et les abandonne.
C'est rédigé dans un style très drôle et il y a une sorte de sprezzatura, comme si tout était léger et facile.
Mais oui, et en fait, c'est. Je pense que pour Casanova, rédiger sa vie, la revivre, ça a été extraordinaire et peut-être qu'il a enjolivé des choses, mais je crois pas, parce qu'en fait, il y a une telle science des détails, il y a une telle accumulation de faits vrais, de sensations, de dialogues, c'est vivant, c'est complètement selon sa devise qui était sequere deum, suivre le dieu. Pas suivre Dieu, pas les dieux, suivre le dieu, la déesse, que c'est tout à fait réjouissant. C'est écrit en français, en plus, alors avec des italianismes, mais c'est une lecture absolument fantastique. Et quand je l'ai lu, moi, pour la première fois, ça m'a complètement enthousiasmé. C'est digne des meilleurs romans du XVIIIe siècle, sauf que c'est un roman vrai.
Il dit dans la préface « Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus importante. » Est-ce que vous vous identifiez, Cécile Gilbert ?
Évidemment que cultiver les plaisirs des sens est agréable, mais est important. Mais il n'y a pas que les plaisirs des sens. Je pense qu'il a cultivé l'instant présent surtout. Et en fait, on le verra peut-être durant cette émission, mais je crois que finalement tout se résumera à une question d'un rapport au temps, d'un rapport au présent. Et effectivement, le XVIIIe siècle a été un moment pas historique, mais quasiment métaphysique où on a cultivé le présent à fond. On a essayé de vivre l'instant. Dans le mouvement, dans la vivacité, dans une sorte d'effervescence où tous les sens ont participé, tous les arts, tous les agréments, mais avec une profond refus de la culpabilité finalement.
Qu'on retrouvera d'ailleurs chez Sade, dont on va parler tout à l'heure. Vous nous avez choisi un extrait.
Alors oui, c'est un extrait assez court, et où Casanova en fait livre une sorte comme ça de, je dirais, de philosophie de sa vie, mais il y a beaucoup de passages comme ça réflexifs où il revient en fait sur la façon dont il faut considérer l'existence. J'aimais, j'étais aimé, je me portais bien, j'avais beaucoup d'argent et je le dépensais. J'étais heureux et je me le disais, riant des sots moralistes qui disent qu'il n'y a pas de véritable bonheur sur la terre. C'est le mot sur la terre qui me fait rire, comme si on pouvait le chercher ailleurs. Mors ultima linear rerum est, la mort est la dernière ligne du livre de la vie. Là il cite Horace. Il y a un bonheur parfait et réel tant qu'il est permanent. Ce bonheur passe, mais sa fin n'empêche pas qu'il n'ait existé et que celui qui en a joui n'ait pu se le témoigner. Les hommes qui ne le méritent pas sont ceux qui, le tenant, se le dissimulent ou les autres qui, ayant les moyens de se le procurer, le négligent. Carpe diem, quam minimum credula postero, il cite à nouveau Horace, jouis du temps présent, compte sur l'avenir le moins que tu peux.
Se le procurer, il parle de se procurer un bonheur. Vous pensez que c'est possible de se le procurer, de faire un choix délibéré, de se dire « voilà, je vais être heureux », Cécile Gilbert ? C'est une décision ?
C'est un courage. Il faut du courage pour être heureux, il faut du courage pour repartir, malgré les assauts des épreuves, malgré tout ce qui pourrait évidemment assombrir notre esprit, notre âme. C'est d'abord un courage, après il y a des moyens de Oui, d'abord de se souvenir des meilleurs moments, de cultiver le plaisir d'être vivant. Après tout, on peut critiquer son époque, on peut critiquer tout ce qui nous entoure, mais en fait, il y a qu'une chose qui est quand même finalement inextinguible et qui est la plus vivace au milieu de tout ça, c'est qu'on est vivant à l'instant présent, en ce moment. Et donc ça, c'était déjà une chose merveilleuse si on pense au néant ou aux abîmes dans lesquels sont précipités ceux qui ne sont plus.
Je profite de Casanova, Cécile Gilbert, pour faire une incursion en Italie, qui fait partie de vos remèdes, et où vous vous rendez tous les ans, depuis des décennies.
Oui, en fait, depuis... alors moi, je suis mariée depuis 30 ans avec un homme qui est mon principal remède à ma mélancolie, parce que c'est quelqu'un qui est très angoissé aussi, mais qui vit complètement dans l'instant, qui est incapable de se gâcher un plaisir ou un bon moment en pensant au lendemain, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est souvent... qui a beaucoup d'humour, qui est très gai et qui est toujours partant pour tout. Et depuis que je le connais, je connaissais l'Italie avant, mais mes parents m'y avaient emmené, mais depuis que je le connais, nous allons tous les ans en Italie. Nous sommes beaucoup allés à Venise, nous sommes beaucoup allés en Toscane, en Ombrie, et puis à partir de quelques années après notre mariage, on a rencontré des amis qui sont devenus comme une famille de cœur, qui aussi ont le goût de l'Italie et le goût du bonheur. Et donc nous avons, depuis, disons, 20 ans, passé presque tous les étés en Italie avec eux, dans différents endroits. Et pour moi, l'Italie, c'est vraiment c'est vraiment une continuité de plaisir, quoi. C'est, à tout point de vue, le plaisir de tout ce qu'on peut y voir, le plaisir de tout ce qu'on y mange, cette espèce de, bon, le climat qui est très important. On en reparlera sans doute avec Nietzsche, mais c'est vrai que, au même titre qu'il y a une géopolitique, il y a une géospiritualité, quoi. Et moi, je trouve mon bonheur dans le Sud. Je suis une femme du Sud, je suis plutôt méditerranéenne. Et l'Italie, c'est la beauté partout, quoi, y compris à chaque coin de rue. Plus toute la floraison et la profusion d'art, enfin, c'est inépuisable. Et on peut aller dans n'importe où en Italie, n'importe quelle petite ville, il y a une pinacothèque, n'importe quelle petite ville, il y a des tableaux dans les églises, il y a des cafés, il y a des belles places, il y a une urbanité et un urbanisme qui sont vraiment exceptionnels, quoi. Je pense que les Italiens ont réussi à être moderne, à créer du design à l'intérieur de villes qui sont complètement pas dans leur jus, mais qui, oui, presque dans leur jus, sans avoir rien détruit comme c'est le cas en France, quoi.
C'est aussi l'un des peuples les plus charmants qui existent.
Les plus charmants, ils ont une langue qui est une musique extraordinaire, et puis tous les Italiens sont des esthètes, hein, presque tous. Hein, vous pouvez parler avec n'importe qui, une marchande des quatre saisons, un chauffeur de taxi, un aristocrate, ce sont tous des esthètes au même titre que les Russes sont des poètes. Bon, on généralise, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est vraiment l'âme du peuple est dans la beauté.
Ça va traverser d'ailleurs tous les remèdes qu'on va évoquer. Cécile Guilbert, on reste au XVIIIe siècle pour aborder l'universalisme émancipateur des Lumières. Quelles idées des Lumières vous appuient ?
Eh ben, l'idée de la liberté, déjà. L'idée de la liberté, l'idée de l'émancipation par la raison, qui me semble évidemment fondamentale. Et ça a l'air d'enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais en même temps, on vit dans une telle régression de la raison, de la faculté de discriminer, de la faculté de nuancer. On vit sous une telle chape de néo-obscurantisme que je pense que évidemment l'idéal des Lumières est plus que jamais à l'ordre du jour. Alors évidemment, on peut dire aujourd'hui que c'est un idéal qui est plus formel que réel, qu'il a trahi ses promesses, qu'il a encore beaucoup à dire, etc. Mais je pense qu'il faut s'accrocher à cette idée de l'esprit critique et de la raison. Et en même temps, c'est là où, bon, il y a quand même un paradoxe, c'est que la raison ne peut pas tout, et la raison aussi nous enchaîne à beaucoup de choses dont il faut se délivrer. Et c'est pour ça que je pense que la raison est importante, hein. Il y a une phrase de Casanova que j'adore qui dit je déteste la mort parce qu'elle détruit la raison. Mais en même temps, la raison instrumentale, si vous voulez, c'est aussi ce qui fait notre malheur.
Une complexité à réhabiliter. Souvent, on oppose le 19e siècle et le 18e parce qu'on voit un peu la volupté dans le spleen du 19e, cette sombreur qui est recherchée. Et le 18e, on l'imagine comme beaucoup plus gai, avec cette vivacité, cette philosophie existentielle réjouissante. Cécile Guilbert, vous avez écrit sur Sterne, Swift, Sade, Saint-Simon, Champfort. Comment tous ces hommes faisaient face à la mélancolie ? On peut pas dire que le 18e soit exempt de mélancolie.
Ben, je ne sais pas comment ils y faisaient face, mais en tout cas, la mélancolie n'est pas quelque chose qui a été cultivé comme valeur. Alors, on voit bien qu'au 19e siècle, elle est cultivée comme valeur. Il y a une sorte de snobisme de la mélancolie, quoi. Rien n'est plus chic que d'être une espèce de romantique triste. Donc ça, c'est des ethos qui traversent évidemment tous les individus à chaque moment de l'histoire, mais il y a quand même des idiosyncrasies, comme on dit, qui sont spécifiques à certains siècles. Et puis, il y a aussi des siècles où l'optimisme historique est grand. Le 18e siècle, c'est un siècle d'optimisme historique. Et pourtant, ça va finir en France par la Révolution française, mais qui est aussi un optimisme par rapport à l'humanité. Donc, j'imagine bien que les hommes de la Renaissance, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans une propulsion très très différente de ce qui les précède au Moyen-Âge, et donc il y a des moments comme ça charnières dans l'histoire, mais il y a eu plusieurs miracles, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs miracles dans l'histoire de l'humanité, la Grèce, et puis il y a la Renaissance, et puis il y a le XVIIIe siècle, dont Nietzsche dit qu'il est une sorte de nouveau miracle grec, hein, en fait. Et il parle du moment français du XVIIIe siècle comme d'une sorte de nouveau miracle grec, dont les Français ne sont pas conscients, en fait.
Mais justement, Nietzsche, qui est un philosophe revigorant pour vous, Cécile Guilbert, chez lui, on retrouve cette vitalité, ce bouillonnement, cette curiosité, cette amor fati, cette acceptation de la complexité et des nuances inhérentes au réel.
Tout à fait, mais aussi on trouve, une pensée qui passe par le corps. Et ça me semble très très important par rapport à... En fait, la tradition philosophique jusqu'à lui, enfin celle qui a eu lieu jusqu'à lui.
Alors qu'il est souffreteux, il est malade.
Il est souffreteux, mais il a quand même une biographie qui est très édifiante, dans la mesure où il s'est dépris de certaines choses, il a fait son chemin dans une certaine solitude. Certes, il a connu la maladie, mais il s'est aussi libéré de beaucoup de choses. Il s'est libéré du professorat, il s'est libéré de l'emprise sociale, il s'est libéré du protestantisme, il s'est libéré de l'Allemagne, il est allé vers le sud, justement, vers le sud, vers l'Italie, vers la musique, vers la danse. Et moi, quand je l'ai lu, en fait, j'avais 14 ans, je ne comprenais rien à ce que je lisais, mais j'avais trouvé ce livre dans une bibliothèque familiale.
Généalogie de la morale.
Voilà, généalogie de la morale.
Ça sonne comme une menace.
Et puis, je me souviens, quand je suis rentrée en philo, il n'était pas vraiment au programme, mais je commençais à évidemment le lire davantage, et j'avais voulu absolument faire un exposé dans ma classe à mes congénères de terminale. On était donc dans ce pensionnat de filles. Je me souviens que j'avais fait un exposé de 4 heures sur Nietzsche, et j'étais extrêmement enthousiaste à l'époque, et je n'ai jamais cessé de le lire, et j'ai toujours dit que c'était mon éducateur, parce qu'il y avait aussi cette façon de penser dans une prose stylée, qui était celle d'un écrivain et d'un poète, mais qui était celle d'un écrivain et qui n'était pas une prose... conceptuelle, comme celle qu'on lisait par ailleurs quand on faisait de la métaphysique allemande ou des trucs comme ça. Et ça, c'était très important. Donc il y avait un accès à Nietzsche, si vous voulez, qui passait par une... Ça ne veut pas dire que c'était un philosophe facile à comprendre, mais il était, disons, plus facile à lire. Et surtout, par ses qualités de style et par, évidemment, la puissance de sa pensée, il nous délivrait de beaucoup de choses. Il nous permettait de comprendre notre époque aussi, ce nihilisme, cette puissance qu'ont les foules, qu'ont les autres sur nous, sur nos instincts, sur nos aspirations créatrices. Et puis, évidemment, il détrônait évidemment le Christ au profit de Dionysos. Et puis, il y avait cette façon aussi, cette diététique. Et ça, c'est très important dans la vie pour être, pas forcément pour être heureux, mais pour se sentir bien. C'est, honnêtement, je pense que beaucoup d'états d'âme, comme la mélancolie, la tristesse, la dépression, passe par un état du corps. Et Nietzsche, en appuyant sur une sorte de régime, une sorte d'hygiène de vie, aller vers le sud, manger certaines choses, il y a vraiment un côté diététique sur la physiologie du corps qui était tout à fait stupéfiante et je pense de grand profit.
Cécile Guilbert, vous avez aussi choisi la pensée taoïste. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Nietzsche ou pas du tout? Je pense par exemple au fatalisme heureux et confiant qu'on pourrait retrouver dans les deux cas.
Pardon, mais je ne penserais pas tellement à Nietzsche. Mais en fait, si vous voulez, il me semble que le taoïsme est une... Bon, d'abord, c'est pas franchement une philosophie, ce serait plutôt une sagesse. Mais elle est de nature, si vous voulez, à... contrebalancer cette espèce d'optimisme qu'on pourrait avoir dans la raison. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur les lumières et l'émancipation par la raison, etc. Mais en même temps, quand je parlais de raison instrumentale ou quand je parlais de ce que devient l'Occident, c'est vrai qu'on est dans une sorte de durcissement de toutes sortes de paramètres qui sont liés à l'usage de la raison et qui ont été liés aussi au déploiement de la technique. Et en fait, c'est à la raisonnement des corps par la technique, la technoscience, la raison calculante, la pensée calculante du chiffre, du nombre, des statistiques, enfin qui sont vraiment les paramètres qui se durcissent de plus en plus maintenant avec le numérique, l'intelligence artificielle. Et le taoïsme, c'est une sorte de sagesse qui voudrait dire laissons-nous traverser par les choses, soyons souples, ne soyons pas réactifs. Soyons plutôt dans cet état de flottement qui consiste à ne pas évaluer constamment, ne pas juger constamment, ne pas prendre parti, ne pas nous opposer, ne pas être dans cette espèce de dualité noir-blanc, sujet-objet, qui est en fait quelque chose qui nous met un peu en prison.
Et vous y arrivez ?
Ben, j'y arrive, c'est-à-dire que je pense que...
Vous vous entraînez ?
Oui, je m'entraîne, mais en même temps, si, tant qu'on vit ici en Occident, c'est compliqué parce que il faudrait ou fréquenter que des gens qui pensent un peu comme ça pour être complètement heureux. Et en fait, surtout, il faudrait pas avoir d'ego. Et en fait, c'est compliqué parce que je pense qu'une grande source des malheurs humains vient de l'ego, qui est trop fort, qui crée des tas de malheurs. Mais en fait, on a l'impression que si on n'a pas d'ego et qu'on fait, par exemple, des professions, par exemple, écrivain ou... où on publie, il faut s'imposer. Toutes les professions, il faut s'imposer individuellement. Il faudrait avoir de l'ego, en fait, pour que ça, voilà, pour que ça marche, qu'on parle de vous et tout. Et en fait, en même temps, l'ego, c'est pas bon. Donc, si vous voulez, je suis un peu tiraillé, moi.
Oui, mais c'est bien d'être ni dans un excès, ni dans l'autre. C'est à nouveau la nuance. On retourne au XVIIIe siècle dans un instant. Le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, 15-15, Le Jeune.
Running over there, woman, my mother, two mama.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Cécile Guilbert et du Marquis de Sade. Votre citation consolatoire est tirée de Juliette ou les prospérités du vice, et elle est énoncée par l'héroïne. Le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. On la trouve aussi en exergue de votre ouvrage Sans entrave et sans temps mort. Comment l'entendez-vous et est-ce votre cas ?
Eh bien, je pense profondément que pour tout être humain, mais surtout pour les gens qui écrivent, il n'y a que deux temps. Il y a le présent et le passé. Parce qu'évidemment, on écrit avec sa mémoire, on écrit avec son passé, ses émotions et toute son histoire. Il y a toujours, comme disait Barthes, au croisement de l'écriture, il y a un souvenir, il y a la mémoire, puis bon, il y a le temps présent. Honnêtement, spéculer sur l'avenir est vraiment une perte de temps, une perte de force, d'énergie. Ça ne sert à rien, c'est totalement vain.
Même pour être stratège dans l'art de la guerre, par exemple ?
Ouais, enfin bon, on n'est pas des empereurs ou...
Vous ne savez pas, parler pour vous.
Un projet de conquête d'un territoire qui nécessiterait une stratégie. Bon, bien sûr qu'on passe un petit peu à l'avenir et aujourd'hui on nous en fait penser beaucoup trop à mon avis. Puisque justement, on a tendance à déserter notre présent qui est plutôt tristouné ou un petit peu à l'arrêt. Ou... Mais justement, non. C'est il faut lutter contre ça parce que ce présent, il peut être aussi plein d'autres choses qui n'étaient jamais présentes jusqu'à présent.
Par exemple,
La pensée méditante, la joie de découvrir des livres, de passer du temps avec ceux qu'on aime, de plein de choses et plein de plaisirs simples aussi de la vie qui sont plus prosaïques mais qui sont tout aussi importants et qui spirituellement c'est aussi important de méditer en lotus que de couper des légumes pour faire de la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a dans la simplicité du geste, dans la frugalité de chaque geste, il y a une sorte de densité comme ça du présent et de l'esprit qui peut être là. Donc cette phrase de Juliette, moi elle m'a toujours portée comme une sorte de petit mantra. Parce que le présent m'électrise, le passé m'encourage. Ben le passé m'encourage, ça veut dire que c'est la mort fatie au sens nietzschéen, se souvient de ce qui a été bon et donc il vous encourage. Et puis il n'y a pas que votre passé personnel et subjectif, il y a aussi le passé de l'humanité, de ce qu'elle a pu accomplir. Et puis le présent m'électrise parce qu'après tout c'est à ce moment-là que je suis vivant et dans cette perpétuelle seconde, ce moment qu'il faut capter. Bon, et l'avenir, honnêtement, ça aurait pu prendre une phrase de Nabokov tirée d'Ada qui dit exactement la même chose sur cette dimension du temps.
En même temps, le passé n'est pas toujours encourageant selon l'angle par lequel on le prend. On peut avoir des événements qui font qu'on se dit « Oulala, déjà, empiriquement, je sais que c'était vraiment pas terrible, alors... »
Oui, mais ça, c'est complètement abstrait, en fait. Ça vous atteint pas complètement. Mais ça montre surtout ce que montre toute l'histoire du passé, telle qu'on peut la récapituler. C'est aussi sa contingence et puis une forme de elle n'a pas de sens, quoi. Rien n'a de sens.
Et vous êtes à l'aise avec ça, Cécile Guilbert, le fait que rien n'ait de sens ?
Je pense qu'en vieillissant, je le suis de plus en plus.
Et rien n'a de sens, véritablement ?
Rien n'a de sens. Entendons-nous, on donne du sens à sa vie, comme on dit, par un certain nombre de choses, par l'amour, par la création, si on a envie de créer, etc. Globalement, c'est une sorte de farce, la vie. On saisit des opportunités, et puis il se passe des choses amusantes, et puis... Mais ça n'a pas de sens, au sens, il n'y a pas une téléologie. Je ne le sens pas comme ça.
Extrait de la sonate en trio en sol mineur d'Elisabeth Jacquet de la Guerre pour introduire par un artifice musical et temporel le tableau qui vous enchante, Cécile Guilbert, l'enseigne de Gersin réalisée en 1720 par le premier grand peintre des Lumières, Antoine Watteau, un tableau publicitaire.
Ah, ça c'est merveilleux, c'est joli cette sonate. Oui, alors j'ai choisi de vous parler de l'enseigne de Gersin, qui est un tableau, mais... que je trouve, moi, exceptionnel, que j'ai découvert, que j'ai eu la chance de découvrir quand j'avais 21 ans, car figurez-vous que quand j'avais 21 ans, il y a eu à Paris la première grande rétrospective de Watteau, ou Watteau, comme on dit, au Grand Palais. C'était la première fois, en fait, depuis la mort de Watteau, et c'était pour le tricentenaire de sa naissance, qui a eu cette grande exposition. Et là est venu de Berlin ce tableau exceptionnel qui s'appelle L'enseigne de Gersin. Et alors, ce qui m'enchante, bon, le tableau m'enchante pour toutes sortes de raisons.
Vous pouvez dire où il était placé, parce qu'il est assez particulier comme tableau.
Oui, alors c'est une enseigne, parce qu'en fait, c'était l'enseigne d'un marchand de tableaux qui s'appelait Gersin, qui était un ami de Watteau, et qui avait une boutique qui s'appelait Au Grand Monarque, sur le pont Notre-Dame. Et en fait, Watteau, revenant d'Angleterre, bon, il a toujours une vie très très mystérieuse, Watteau, on ne sait pas exactement quand il a peint ses tableaux, enfin...
On ne connaît aucune relation amoureuse.
Voilà, il n'y a aucun domicile fixe, il y a 4 ou 5 lettres de lui, on ne sait même pas vraiment si elles sont complètement authentiques. Enfin bref, c'est quelqu'un de très mystérieux, de très secret, qui est mort jeune à 37 ans. Et donc, l'enseigne de Gersin est sans doute son dernier tableau qu'il dit avoir peint en 8 matinées pour se dégourdir les doigts. Ce que je trouve déjà absolument merveilleux.
Et insultant pour le reste de l'humanité.
Et donc, c'était une enseigne destinée à ce marchand de tableaux. Et donc, c'est une peinture dans la peinture, puisqu'elle représente, en fait, une boutique très richement achalandée, qui est remplie sur tous les murs de tableaux. À la place du spectateur, en fait, on voit que c'est à la fois une peinture qui est dedans et dehors, puisqu'on voit cette boutique qui est complètement ouverte, en fait, qui n'a pas de vitrine, qui n'a pas de porte, qui est complètement ouverte sur la chaussée. Et on voit plusieurs scènes à l'intérieur de ce magasin qui est rempli de tableaux. On voit une femme qui rentre, qui est de dos. Un gentilhomme lui tend la main pour la faire rentrer. On voit un couple, sans doute de dos complètement, de gens plus âgés qui regardent un tableau qui est posé au sol. Et on voit un groupe de jeunes gens qui est sur le côté, en fait, se regarde dans un miroir, puisqu'en fait, on comprend que cette boutique vend aussi... pas seulement des tableaux, mais aussi des objets de toilette et des miroirs. Donc il y a plusieurs personnages qui sont là. Il y a une gamme chromatique qui est époustouflante, parce qu'il y a tout un camailleux en fait, de beige, de gris. Mais en fait, les deux figures principales sont ces deux femmes, une qui est assise, qui se regarde dans un miroir, une qui rentre dans des costumes, des manteaux de satin absolument somptueux. Et puis il y a un autre détail, c'est que... ce magasin de Gersin qui s'appelait Au Grand Monarque, en fait, on voit deux commis qui sont en train de déplacer des choses dans la boutique sur la gauche et qui sont en train de déposer dans une caisse en bois le portrait de Louis XIV. Et en fait, ce tableau peint en 1720, qui est à la fois un tableau imaginaire, c'est pas du tout une scène que Watteau aurait, si vous voulez, saisie par un croquis qui a réellement existé dans ce magasin. C'est une scène imaginaire, mais le magasin est réel. Et donc, c'est une mise en abîme de la peinture qui est absolument fantastique, parce qu'on voit sur les murs, on reconnaît un Velázquez, par exemple, à gauche, on reconnaît des peintres, on reconnaît Véronèse. Il y a énormément de nus féminins. Il y a toute une récapitulation de la peinture italienne et flamande. Il y a une mise en abîme, donc, de la peinture. C'est un morceau de peinture pure, parce qu'en fait, il signifie rien. Et en même temps, c'est cette idée, encore une fois, de l'instant. C'est en même temps une toile très silencieuse, comme toutes les toiles de Watteau. C'est une toile quasi muette. Et c'est aussi une idée du luxe. Et c'est aussi l'idée de cette ouverture sur la Régence qui va être un moment absolument fantastique, d'où symboliquement la mise en caisse à dégager du portrait de Louis XIV. Et cette idée du luxe, effectivement, c'est ce magasin de tableaux somptueux, avec cette gamme chromatique extrêmement subtile. Et c'est un grand tableau, hein. C'est un tableau qui fait plus de 3 mètres de large.
Il est très très beau et on mettra les références sur le site internet, j'encourage les auditeurs à aller le voir et à regarder aussi le chien à droite dans l'angle qui est directement inspiré de celui du couronnement de Marie de Médicis par Rubens. Allez voir, c'est très
absolument
amusant.
Ce temps-là, moi je fais la 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 la. Le temps passera, tout ça s'effacera, l'histoire coulera, on ne sera plus là. Ce temps-là, Moi je regarde toutes ces choses-là, j'écoute tous ces trucs-là, et je fais la 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 la, on chantera la 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 la, on dansera la 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 la, je ne serai plus là.
Cécile Gilbert, votre antidote musical est la version française du morceau La 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 de l'actrice et chanteuse allemande Ingrid Cavan, et vous affectionnez aussi les livres de son compagnon, l'écrivain Jean-Jacques Schul, qui a d'ailleurs signé certaines de ses chansons et obtenu le prix Goncourt avec un livre intitulé Ingrid Cavan en 2000.
Oui, Ingrid Cavan, un personnage fascinant, assez magnétique, c'est une muse, une grande artiste, une actrice, une chanteuse, et j'aime beaucoup cette chanson La 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 La, parce qu'en fait, le temps passera, tout ça s'effacera, et je ne serai plus là, et en fait, La La La, c'est comme blablabla, et finalement, c'est l'histoire de dire que tout ça n'a pas tellement d'importance, et que, voilà, c'est
beau. Tout est dérisoire.
Voilà, la vie est belle.
Ça, c'est au bois, les femmes jolies à la mode, qui allaient tous les matins, à midi, au bois. Alors on se rencontrait, elles montraient leurs nouvelles robes tous les matins. Ça m'amusait beaucoup. Et alors quand j'avais fini de travailler, je me dépêchais en courant d'aller au bois tous les matins à midi. Et ça m'intéressait beaucoup la mode, les nouveaux chapeaux. Les... Mais enfin c'était surtout parce qu'elles étaient, elles, jolies. Et... Elles arrivaient de loin, je me disais, oh celles-là sont drôles, elles sont bien. Et j'étais assis sur une chaise, je me levais, toc. Et mon appareil, à ce moment-là, était très bruyant. Et alors, quand elles étaient seules, en général, elles souriaient. Mais quand il y avait un monsieur avec elles, il était furieux.
Le photographe Jacques-Henri Lartigue, en 1983, vous avez choisi ces photographies, Cécile Gilbert.
Ah oui, j'adore les photos de Lartigue. Alors d'abord, ce que j'adore chez Lartigue, c'est que c'est pas un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui voulait être peintre. En fait, il est photographe malgré lui, mais en fait, il découvre la photo dès qu'il est enfant. Son père lui achète un appareil, et puis son père, c'est un père merveilleux. C'est un père qui lui dit que sa vie, il en a qu'une mission dans la vie, c'est d'être heureux. Et son père lui crée une sorte de royaume féerique. Alors certes, ils ont beaucoup de moyens, c'est une famille aisée, mais très fantaisiste, très anticonformiste. Et le jeune Lartigue, il se jette à 6 ans sur son appareil photo, il commence des albums. Et alors, comme c'est le début de la vitesse, des autos, des avions, des hydroplanes, des montgolfières, les montgolfières c'est bien plus ancien, mais si vous voulez, il y a toute cette technique, toute cette vitesse un peu à la Paul Morand de la Belle Époque, et en fait il va être le photographe du mouvement, de l'instantané, des sauts. Alors il y a des adultes qui sautent en l'air, il y a des animaux qui sautent, il y a tout ce mouvement, ce corps en liberté, tout ce qui s'arrache à la pesanteur. Donc l'article, c'est quelqu'un qui est vraiment une sensibilité du 18e siècle, parce qu'en plus il a écrit des journaux merveilleux. J'avais découvert ça à une exposition à Beaubourg en 2003 ou 4, je ne sais plus. Et il y avait des phrases sur les murs qui étaient toutes enchanteresses, parce que c'était toutes des phrases qui auraient pu être dites par un philosophe des Lumières ou un libertin, à savoir qu'il fallait empailler son bonheur, qu'il fallait se souvenir que ce qu'il y avait de meilleur. Et il y avait cette joie, cet émerveillement. Et l'article, jusqu'à la fin, il était un très vieux monsieur, mais il était toujours comme un enfant, en fait. Et il avait cette capacité d'émerveillement. Et donc toutes ces photos qui datent, si vous voulez, de ses débuts, 1900 jusqu'à les années 20, bon, les autres aussi sont très belles, hein. Il y avait, surtout quand il a photographié toutes ces femmes, ses maîtresses, très photogéniques, très belles, avec cette élégance. Et puis, on savait pas encore à l'époque que cette esthétique allait foutre le camp et allait s'écrouler. Donc, il y a aussi cette innocence, si vous voulez, de capter de façon très graphique cette esthétique de la Belle Époque. C'est merveilleux, quoi. C'est de la joie. C'est des photos qui font rire, qui sont très joyeuses, qui sont très...
ludiques, il y a même du...
Oui, parce qu'il y a le mouvement des corps, parce qu'il prend les corps qui cabriolent, qui font des culbutes, et il a son frère qui est son dieu, qui est 4 ans de plus que lui, qui fait des tas d'acrobaties, qui est un casse-cou, et à chaque fois, il le prend en photo, et il y a aussi une sorte de petite prouesse, si vous voulez, techniquement, d'arriver à saisir le mouvement à cette époque. Donc l'article, c'est... voilà, c'est un être libre et qui a vraiment connu un âge d'or et dont les photos restituent un peu ce paradis perdu.
200 000 clichés de celui qui disait « Je suis empailleur des choses que la vie m'offre en passant ».
Il est au service, je suis au supplice, sur ce grand cours de tennis. L'arbitre tout là-haut note le scénario, vivement qu'on en finisse. Le voilà qui frappe, la balle s'échappe de sa raquette en acier. Il m'arrive en trombe, sans qu'elle ne tombe, à l'endroit où j'attendais. Psychologiquement, je sais bien que ce n'est pas bon de perdre son premier point. Il m'a pris en traître, ce n'est pas un coup de maître, quelle espèce de sagouin. Avec sa gueule torve, il est plein de morve, je vois bien que c'est un minus. Il joue comme une brute, il ne déploie aucune astuce.
la partie de tennis de Michel Legrand pour introduire votre activité anti-spin, Cécile Guilbert. Jouez au tennis comme votre héroïne, Juliette, qui est gardienne de musée dans le Musée National, votre premier roman.
Bravo.
Détective Bester sur toutes les enquêtes.
Oui, je pense que le si vous voulez, le sport, le mouvement, avoir son corps en mouvement contribue puissamment à diminuer la mélancolie, la tristesse, et c'est fondamental, hein. On a beaucoup parlé du corps là dans cette émission, et donc bon, moi j'aime pas du tout faire du sport d'endurance, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un jeu. Donc le tennis est parfait. En plus, j'aime pas trop les sports collectifs parce que j'ai un peu l'esprit de compétition, j'aime bien les sports individuels. Alors le tennis pour moi c'est génial parce que c'est vraiment se focaliser sur ce que j'ai dit pendant toute cette émission, c'est-à-dire l'instant, parce que c'est sur la balle, quoi. Et donc, c'est amusant, il faut rattraper cette balle, l'envoyer, coincer son adversaire, on court, on saute, c'est du lartigue pur, donc.
Et le yoga?
Le yoga, c'est pas du sport. Le yoga, c'est autre chose. Le yoga, c'est une discipline du corps, mais pas que du corps. C'est une discipline dont le but, si vous voulez, est de chasser l'agitation mentale, de tout ce qui nous, voilà, toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Donc, c'est la recherche d'un état d'équilibre, de paix, de vide du mental, où dans l'idéal, on devrait rejoindre l'absolu comme on est nous-mêmes une parcelle d'absolu, à savoir qu'on est comme une goutte d'eau qui nous rejoint l'océan, quoi. Donc le yoga, c'est pas du tout une discipline sportive ou une gymnastique, pas du tout.
Mais le corps est impliqué parfois, même si le yoga est bien plus que des
postures. Mais plus que le corps, c'est le souffle qui est impliqué, en fait. Donc le souffle est impliqué, mais justement, le rythme du souffle, en fait, c'est une sorte de rythme cosmique qui vous fait atteindre quelque chose qui doit être le vide de vos pensées, et donc un état parfait de sérénité et de calme. Ça rejoint le taoïsme aussi, d'ailleurs. Puisque le taoïsme est traversé aussi par le souffle. Et en fait, le taoïsme, il faut chevaucher le vent ou se laisser porter par la vague sans essayer de prendre parti, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est deux pensées orientales qui sont très différentes. Hein. Toutes les pensées qui sont liées à la spiritualité indienne ou la pensée chinoise sont à la fois différentes, mais se rejoignent là-dessus.
Merci beaucoup, Cécile Guilbert, d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Vos deux derniers ouvrages sont le recueil de chroniques Roue Libre, paru en septembre dernier aux éditions Flammarion, et la magistrale anthologie Écrit stupéfiant, drogue et littérature, de Homer à Will Self, paru aux éditions Bouquin. Chers auditeurs, la programmation musicale, tous les remèdes, même ceux dont on n'a pas eu le temps de parler, sont sur le site de l'émission. Nous sommes sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur a l'assurance d'un moustique, ne piquant qu'après avoir obtenu le consentement du sang. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.